Alors bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et je suis de retour cette semaine pour animer cette merveilleuse émission sur l'automobile et pour m'accompagner celui qui a tenu cette émission sur ses épaules seul la semaine dernière, mon ami et mon collègue, Monsieur Marc Bouchard. Salut Marc.
Salut mon cher, est-ce que ça va mieux ta grippe d'homme?
C'est pas encore tout à fait guéri complètement. J'avoue que elle dure assez longtemps, cette grippe. La semaine passée, c'était vraiment affreux. J'ai pensé me forcer à venir faire l'émission, mais je toussais aux 30 secondes. Je me suis dit, ça va être affreux. Je vais passer mon temps à couper le micro. Le montage va être effrayant si je me mets à tousser puis à essayer de faire du montage. Parce que c'est pas toujours évident. Des fois, tu sais, quand c'est pas à ton tour de parler puis c'est toi qui parles, ben, c'est facile pour moi de couper le micro ou de, tu sais, faire un silence sur la piste audio, même si j'ai toussé un coup, puis enlever ça pour pas achaler les gens. Mais quand c'est toi qui parles puis qui fait tu fais la revue d'une voiture puis tu te pars à tousser, le montage vient plus difficile. Fait que j'ai décidé, ouais,
dans mon
j'étais
cas,
pas capable.
Dans mon cas, le problème est différent. Quand tu parles, moi je coupe les écouteurs, c'est pas pareil.
Ouais, c'est ça, mais tu fais ça par choix, tu sais. Donc c'est ça. Donc c'est un peu mieux, c'est pas parfait. Donc ma voix est peut-être pas à son meilleur, mais bon, jamais vraiment à son meilleur, là, mais ça va peut-être être un petit peu pire cette semaine. Mais on va faire ce qu'on peut. Ça me tentait pas de sauter deux semaines.
T'sais. Je t'avertis, je suis pareil. Je tousse comme un perdu. Alors, ça se peut qu'à un moment donné, vous m'entendiez plus. Ouais. Ce qui est peut-être une bonne nouvelle, en fait, là. Mais ça se peut qu'effectivement, là, à un moment donné, je ne sois plus autour parce que vraiment, c'est un peu difficile pour moi. Je tousse abondamment. C'est pas drôle du tout.
Comment
je fais de l'asthme?
Elle est difficile cette année, la grippe. Ouais. Puis si tu as de l'asthme en plus, ouais.
Ah non, moi je râle comme un perdu, là, j'ai l'air d'un fou. Je vais prendre une marche dehors, je reviens, j'ai l'impression d'avoir fait deux marathons.
T'sais. Okay. Mais tu sais, le fait que t'as l'air fou, ça n'a aucun rapport avec ton asthme. C'est... On pourra en parler plus tard. Donc...
tu vois, ce qui est particulier, je savais pas que la grippe donnait aussi des troubles mentaux.
Oui, oui.
On vient d'en avoir la preuve.
C'est la fièvre, tu sais, la fièvre, des fois, ça fait délirer. Mais pourtant, ce soir, je me sens parfaitement lucide. En tout cas, on verra. Donc, Marc, on a une bonne émission ce soir. Ça va être une émission de 45 minutes. Là, juste dire aux gens, là, c'est possible que d'ici le temps des fêtes, les émissions aient 45 minutes. C'est plus difficile d'avoir des collaborateurs qui vont venir faire leur chronique et des choses comme ça. C'est le temps des fêtes pour tout le monde. Des fois, c'est le rush au travail là, pour les fins d'année, tout ça, dépendant dans quel domaine qu'on travaille. Donc, ça se peut qu'on ait des émissions de 45 minutes d'ici la fin de l'année. Aussi, on va prendre une pause entre Noël et le jour de l'an. Donc, j'en ai parlé avec Marc tantôt. Il n'y aura pas d'émission le 29 et le 5, le 29 décembre et le 5 janvier. On va faire la dernière émission le 22. Donc, vous allez avoir la dernière émission de l'année le vendredi le 22. Puis, on va revenir le 12 janvier. Donc, on va prendre deux petites semaines de congé pour se remettre un peu sur le piton. Puis, avoir le temps de passer du temps avec nos familles et tout ça. Surtout que moi, au travail, en un jour de l'an, je travaille tout seul. Donc, ça promet d'être un petit peu occupé. Donc, j'aurais pas vraiment le temps, même si je voulais d'enregistrer une émission dans ces deux semaines-là. Donc, prendre une pause, ça va faire du bien aussi de ce côté-là. Donc, Marc, pour commencer, bon, on va parler de voitures cette semaine. Moi, je vais faire l'essai de la Jaguar XE. Toi, tu vas nous parler d'une Alfa Romeo.
Oui, l'Alfa Romeo Stelvio.
OK.
L'utilitaire sport qui devrait permettre à Alfa Romeo d'enfin devenir une compagnie importante sur le marché québécois.
Oui, parce que c'est sûr, surtout que tu amènes un VUS à quelque part, normalement, ça attire l'intérêt des gens. Donc, ça va peut-être être bon pour Alfa Romeo, qui est bien là, présentement, mais tu sais, il n'y a pas nécessairement grand-chose à se mettre sous la dent. Peut-être que ça va aider aussi à améliorer les ventes et en voir un petit peu plus sur la route. Ça, on va terminer avec des nouvelles. Je vais commencer avec une histoire un petit peu, pas bizarre, mais j'ai trouvé vraiment ça drôle quand je l'ai vécu. Puis, regarde, peut-être que les gens vont s'en foutre, vont dire, bon, c'est ça, tu fais du temps, un peu. Mais, tu sais, quand tu te dis, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller... je sais pas, à l'épicerie, puis de croiser quelqu'un que normalement tu devrais pas croiser, c'est un hasard, la personne est là, puis tu te dis, tu sais, ah, mais franchement, je m'attendais pas à te voir ici, puis ça, puis là, c'est vraiment bizarre. Ça t'est-tu déjà arrivé?
Ben oui, okay. Mais c'est, ça a le mérite de pas être super clair, ton affaire.
Non,
là,
mais tu sais, je veux juste expliquer quelque chose. C'est juste drôle parce que, bon, lundi de la semaine passée, oui, j'étais grippé et tout ça, puis je suis parti travailler, puis moi, je finis de travailler à 4h30. Puis après ça, ben j'embarque dans mon auto, Je travaillais dans le coin de Ville-Saint-Laurent, puis je m'en viens jusqu'à la maison à Valleyfield. Donc, tu sais, c'est un trajet d'à peu près une heure sur 57 kilomètres environ. Il peut se passer bien des affaires d'ici à la maison et tout ça. Puis, fait, tu sais, c'est vraiment comme... C'est quand même un long trajet, puis les chances que tu croises quelque chose sont plutôt minces, là, surtout quelque chose que tu as déjà vu avant. Donc, c'est drôle, je finis de travailler à 4h30, puis le temps que mon ordinateur s'éteigne, puis là, je prends le temps d'aller à la salle de bain avant de partir et tout ça, tu sais. Puis, tu sais, tout ce qui est vraiment banal. Puis là, j'embarque dans mon auto, je pars l'auto, je prends le temps de connecter mon téléphone à l'auto, tu sais, pour écouter un podcast en m'en allant à la maison. Fait que je prends ce temps-là, fait que je suis immobilisé dans le stationnement, tout ça. Puis, un moment donné, je pars, puis je m'en vais. Puis là, pour me rendre à l'autoroute, puis ce que je veux vous parler, ça s'est passé sur l'autoroute, c'est à 40, ben, faut que je prenne des petites routes, faut que je prenne, je monte jusqu'à Henri Bourassa. Henri Bourassa, c'est toujours bloqué, pare-choc à pare-choc, puis les gens virent à gauche quand ils sont pas supposés virer à gauche, parce que la voie dit de virer à droite, mais ça vire pareil, ça bloque le trafic. Il y a des voies réservées pour les autobus que les gens respectent pas, ça bloque, ça coupe, ça... Fait que le temps de te rendre à l'autoroute, c'est assez variable, mettons, dépendant de comment le monde conduit cette journée-là. Fait que je fais tout ça, je me rends sur l'autoroute, puis juste en embarquant, la voie de service, puis là, tu sais, put, puis t'embarques ça à 40 et tout ça. Là, je réussis à embarquer ça à 40. Je m'enligne directement. Puis vraiment, là, je prends ma vitesse d'aller dans le trafic. C'était comme 30 km/h. Puis là,
ouais, c'est ça, j'étais pour dire, ta vitesse d'aller.
Ouais, c'est ça. Puis là, je rentre dans première voie. Tu sais, je rentre dans voie de droite. Puis je suis directement en arrière d'un camion. Un gros camion. Je dis, bon, ben, je suis pris en arrière de là pour un bout. Tu sais, je suis souvent admiré le paysage. Ah, comme par hasard, c'est un camion qui transporte des autos. Il est chargé de plein d'autos, là. Toutes les deux étages sont remplis, puis il y a des autos tout le long. Il est vraiment plein. Là, je commence à regarder, puis je regarde, je dis, ah, c'est un petit, celui qui est en bas direct en avant de moi, c'est un petit camion. Je dis, ah, c'est un beau camion, je me demande c'est quoi. Puis là, je regarde, il est comme un gris pâle, gris mat, mais tu sais, avec une peinture mate, mais avec du lustré dessus. Ouais. Fait que là, je regarde, c'est cute. Je dis, mais. Je trouve ça beau ce couleur-là, mais j'ai déjà un camion de ce couleur-là. Je regarde, c'est marqué Toyota. Ah, je dis, hey, c'est un beau Toyota. Je regarde, c'est Tacoma. Je regarde, hey, c'est cool. Je regarde TRD Pro. Attends un peu. Là, je suis pris dans le trafic, ça arrête complètement. Là, j'ai dit, oserais-je? Là, je fais juste comme, je suis arrêté dans le trafic, je regarde, je fais juste ouvrir l'application pour mes photos. Puis une de mes premières photos, c'est la photo du Toyota TRD Pro que j'avais. Je regarde le numéro de plaque, je regarde la plaque du truck, je dis « tu m'y niaises ». Le camion de presse était sur le camion en avant de moi, puis s'en retournait à Toronto.
Oh, chanceux!
Mais, tu sais, non, mais là, j'étais là, puis je me disais, tout ce que j'ai fait, puis c'est vraiment niaiseux comme histoire, mais tout ce que, tu sais, tout le temps que j'ai pris pour, tu sais, éteindre l'ordinateur, aller à la salle de bain, pour que j'arrive directement en arrière de ce camion-là quand j'embarque sur l'autoroute, tu fais juste regarder l'espèce de hasard, tous les événements qui se sont enchaînés pour que j'arrive là, à ce moment-là. Je trouvais juste ça comme... c'est presque incroyable, là. Tu sais?
Effectivement.
Fait que je trouvais juste ça drôle. Je me dis, faut juste que je partage ça. J'étais comme, ben là, tu me niaises, là. C'est comme, comment est-ce possible? Fait que...
Ben, il faut quand même dire, je veux pas enlever de crédibilité à ton histoire, mais il faut quand même même préciser que c'est la période où actuellement les véhicules de presse retournent en abondance à Toronto.
Oui, c'est clair.
Tu vois, bon, dans certaines compagnies, il y en a eu comme 16 qui ont disparu au cours des dernières semaines.
Oui.
Et ben c'est normal parce que les modèles 2017 s'en vont et les 2018 arrivent.
Oui, c'est ça. Donc, on enlève aussi certaines voitures de la route, comme les voitures sport et des choses comme ça. Là, on les sert pour l'hiver, on les renvoie à Toronto.
Quoique cette année, j'ai appris plein d'affaires étranges.
OK.
Par exemple, à la fin du mois de janvier, je vais rouler en Mazda MX-5 RF.
OK. Mais ça, c'est correct. La Mazda peut être une auto vraiment le fun l'hiver. Puis il y a beaucoup de gens qui la conduisent l'hiver, cette voiture-là. Fait que je peux comprendre, tu sais. Mais je parlais...
La BMW laisse la i8 sur la flotte de presse tout l'hiver.
OK. Ça, c'est un peu surprenant.
Alors, il y a vraiment beaucoup de voitures comme ça qui sont là cette année, c'est un peu particulier. Ça va nous permettre en fait de les essayer dans un autre monde, dans un autre contexte.
Ce que quelqu'un qui achète l'auto finalement le vit, cette personne-là, tu sais, elle la conduit normalement l'hiver parce qu'on n'a pas tous les moyens d'avoir une troisième voiture pour l'hiver. Là.
Ben, si j'avais une 8 entre toi et moi, peut-être que je la serrerais l'hiver.
T'aurais peut-être les moyens de la serrer l'hiver. Mais tu sais, quelqu'un qui s'achète une Mazda MX-5, ben Il n'y a pas nécessairement les moyens d'assurer.
En tout cas, bien sûr, on pourrait en discuter longuement.
Ouais, mais c'est ça. Mais il y a beaucoup de voitures qui sortent de la flotte. Je sais, chez Porsche, toutes les Porsche sont retournées pour l'hiver. Je ne sais pas s'ils vont en ramener, mais les Porsche qui étaient sur la flotte récemment là, sont toutes retournées à Toronto. Il n'y en a plus.
Ouais. Si tu vois Chrysler, Ford et tout ça, là, c'est la folie, là.
Non.
Bref. C'est sûr que pour ça. Allez, changeons de sujet, mon ami. J'ai vu que cette semaine, tu avais reçu un cadeau.
Oui. Bien sûr, j'ai
le
commencé.
Livre de Bertrand Godin.
Oui, j'ai commencé à lire sur mon heure de dîner hier et aujourd'hui.
Et puis?
Ben, je suis pas rendu extrêmement loin, mais c'est vraiment intéressant
lire,
là.
Hein? C'est sûr qu'il faut savoir lire.
Ouais, c'est ça. Puis moi, tu sais, faut que je lise 2-3 fois. Puis tu sais, non, mais sans blague, tu sais, j'ai pas beaucoup de temps là. Fait que j'ai comme une demi-heure, trois quarts d'heure pour lire
avec
à chaque
un dictionnaire
jour.
Au côté, c'est plus long.
Ouais, c'est plus long de faire. Tu sais, c'est ça de d'attendre aussi que je comprenne la phrase. Puis des fois, je la relise 2-3 fois là, mais c'est ça. Non, mais on va arrêter de niaiser. Le monde va penser que je suis totalement illettré là, mais non, c'est ça. Mais c'est super intéressant. Puis c'est drôle de voir là, comment jeune Bertrand a commencé à aimer les voitures et la course là, puis ce qu'il passionne là. Puis c'est vraiment drôle parce qu'il parle d'un événement, puis on en reparlera avec lui quand il va venir nous parler de son livre. Un jour je vais l'avoir en entrevue pour qu'il vienne nous parler de son livre puis de d'autres choses peut-être là, mais c'est drôle de voir comment une journée spécifique dans sa vie et dans ma vie. On se rappelle exactement où on était lors d'un certain événement, tu sais.
Fait que... la mort d'Ayrton Senna, ou celle de Gilles Villeneuve.
C'est celle de Gilles Villeneuve.
C'est ça. C'est dans le cas de Bertrand, les deux sont aussi importantes.
Ouais.
Il faut quand même préciser, parce que si vous n'avez pas lu le livre de Bertrand, c'est un magnifique cadeau de Noël, je vous le dis.
Ouais, ouais.
Pas juste parce que c'est un ami, là. C'est vraiment un gars qui a... C'est un exemple de persévérance, de tout ce que tu veux. C'est complètement fou. Ce gars-là a fait des affaires qui sont complètement folles.
Mm-hmm.
Sincèrement, là, il est parti avec 800 piastres en poche pour s'en aller faire une carrière en Europe. Il a caché à son père qui s'était acheté un kart. Il a planté son premier char après 8 jours. Donc, c'est vraiment des expériences particulières, mais ça vaut la peine de le lire, honnêtement. Et c'est un fan de Michel Vaillant. Tu te rappelles-tu des bandes dessinées Michel Vaillant?
Non.
Non?
Non.
Mon Dieu, ça manque à ta culture.
Ben,
alors, Michel Vaillant était une bande dessinée française qui, à l'époque, bon, Michel Vaillant était un pilote de course. C'était très, très bien fait. Et d'ailleurs, je pense que Gilles Villeneuve a déjà été dans un livre de Michel Vaillant, de mémoire. Bref, en tout cas, c'est vraiment quelque chose et ça fait partie des passions qui ont animé Bertrand. Alors, c'est un livre, honnêtement, qu'on vous invite à lire. On va essayer d'avoir Bertrand d'ici Noël pour qu'il nous en parle lui-même. Le livre ne s'étend pas sur la totalité de sa carrière, c'est-à-dire qu'il s'arrête un peu à la fin. Il s'arrête en fait en 1997 après sa victoire à Montréal, après sa saison avec Players. Je me suis pas rendu jusqu'à la fin, je suis presque rendu là. Je pense qu'il va pas jusqu'à quand il a fait la Formule 3000 en Europe, mais en tout cas, donc c'est la période où c'est plus vraiment sa carrière de coureur dont il est question. Il parle moins de sa carrière d'analyste et ce qu'il a fait après, qui est tout aussi intéressant puis qui pourra nous raconter lui-même. Alors vraiment, un livre qui est un excellent cadeau de Noël à offrir pour les gens qui en ont envie, là.
Ouais, puis aussi peut-être pour les jeunes, parce qu'il y a beaucoup, c'est une histoire de persévérance, hein, c'est une histoire de rêves brisés, mais tu sais, Bertrand, il a été un enfant un jour. Oh mon Dieu, quelle révélation. Mais tu sais, c'est un enfant qui a eu des rêves qu'il pensait pouvoir réaliser, qui a été brisé et qui a finalement trouvé une autre vocation, puis après ça, il a été, tu sais, le pied au plancher, puis tout ça. Donc c'est vraiment intéressant à date. Tu sais, c'est drôle, puis souvent, j'ai lu un passage cet après-midi, puis ça m'a fait sourire, tu sais, tellement que c'était comme profond, mais drôle en même temps, ce qu'il dit. Puis je veux vraiment donner crédit aussi à Charles-André Marchand, qui a écrit le livre, parce qu'il y a beaucoup de québéquisme dans le livre, puis il a pris le temps de mettre des petits 1, puis des petits 2, puis d'expliquer en bas c'est quoi pour les gens qui seraient en France, puis qui voudraient lire le livre aussi. Bon, expliquer c'est quoi...
Oui, parce que Bertrand est très populaire en France. Hein.
Ouais, c'est ça.
Il a été vice-champion de France, alors il est très, très populaire. Là. C'est très particulier comme carrière, mais bref, c'est super intéressant en tout cas.
Oh oui, ça vaut la peine d'être
Allez-y,
lu.
ne vous gênez pas. Oui, totalement, là.
Puis en plus, c'est d'encourager un petit gars de chez nous, là, donc, tu sais.
Ouais, puis comme tu dis, c'est une histoire de persévérance. Bertrand fait déjà des conférences un peu partout qui s'appellent Piloter mon avenir et piloter son avenir en fait, et ça fait partie de ça.
C'est bon. Donc, Marc, on va faire une petite pause, puis on va revenir tout de suite après. On va parler de nos essais de la semaine. Alors, nous sommes de retour, et Marc, c'est l'heure de nos essais de la semaine. Tu vas nous parler d'une belle petite italienne, la Alfa Romeo Stelvio.
Ouais, je vais te parler plus d'un gros italien, en
Un
fait,
gros
parce
italien,
que.
mais ouais, c'est vrai, c'est pas une petite italienne, c'est un gros italien.
Non,
OK.
parce que c'est un VUS, c'est un utilitaire sport qui partage en fait toute la génétique de la Giulia dont on a déjà parlé. Et c'est un véhicule qui est hyper important pour Alfa Romeo au Canada parce que, comme on le sait, chez nous, comme partout d'ailleurs en Amérique, les VUS ont vraiment la cote. Ce sont des véhicules qui ont besoin de dont les gens sont friands. On parle de 70% des ventes à peu près qui sont les VUS. Donc, c'est assez spectaculaire comme nécessité.
Ça
Et
doit être assez important aux États-Unis aussi pour Alfa Romeo parce que les Américains aussi aiment pas mal les VUS.
ouais,
Fait
effectivement.
que,
Et
ouais.
même si les berlines, même si les voitures, je ne parlerai pas de berlines parce que la 4C, ce n'est pas exactement une berline.
Non, loin, loin de là.
Et c'est ça. Donc, même si les voitures sont intéressantes, il fallait se positionner de façon plus précise avec l'Alfa Romeo Stelvio, avec l'utilitaire sport. Et honnêtement, on a très, 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 très bien réussi.
C'est bon.
Physiquement, il faut dire que le véhicule, il est beau, il est joli. Moi, je peux dire que depuis qu'il passe des pubs à la télé, que ma femme me demande quand est-ce qu'on va l'essayer.
Ah, c'est bon.
C'est un véhicule qui est charmant. Quand on le regarde, bien sûr, il y a la coupe d'un VUS, mais quand même un peu plus raffiné, un peu plus stylé. Et la partie avant, c'est définitivement Alfa, avec la calandre en triangle, avec les phares qui sont extrêmement larges, extrêmement effilés. Ça donne vraiment un look très, très, très particulier et qui est définitivement plus sexy que la plupart des véhicules de cette catégorie-là.
Ouais,
Bon,
ouais.
je suis obligé de te dire que ça se gâche un peu à l'intérieur. C'est pas laid, c'est correct, c'est un peu sans personnalité. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus flamboyant, un peu à l'image de ce que le design italien est capable de nous offrir de mieux. Dans ce cas-là, c'est correct, sans plus. C'est pas une vilaine qualité de finition, bien, bien loin de là, là. C'est bien fait et tout, mais c'est pas. On n'est pas en terrain totalement inconnu, là. On se retrouve dans quelque chose d'assez fréquent et d'un peu plus passe-partout.
Okay.
Même l'infodivertissement, le fameux écran au centre, est un peu particulier parce que, comme la Giulia, il est malheureusement plus large que haut, mais beaucoup plus large que haut.
Ouais, ça fait
Donc,
c'est fait
ça.
comme ça à longueur, moi.
Exactement.
Ouais.
Donc, la meilleure façon d'en profiter, c'est de diviser l'écran. Donc, d'avoir à droite un affichage quelconque, genre la radio, n'importe quoi, et d'avoir à gauche le GPS. Parce que si tu as vraiment le GPS pleine longueur, ben là, ça devient un peu dérangeant. Et on dirait que c'est déséquilibré, c'est beaucoup moins joli.
Okay.
Mais bon, c'est pas laid, là, on s'entend, mais c'est pas aussi beau qu'on aurait voulu l'avoir.
Okay, c'est bon.
Autre détail, la boîte séquentielle, le levier de vitesse se manipule. Il faut toujours que tu appuies sur le bouton vers le haut, vers le bas. Écoute, je te mets les même après une semaine.
Moi, j'ai une photo là, puis ça ressemble beaucoup à ce que Cadillac a là, dans certains de ses véhicules, là, puis c'est pas la meilleure type de levier de vitesse. Moi,
Non.
j'adore pas, là.
Puis du point de vue de l'ergonomie, c'est fatigant parce que tu pèses sur le bouton, puis là, tu te trompes, tu vas vers en haut quand tu veux aller par en bas, tu essaies d'embrayer de reculons, ça marche pas. Bref, c'est pas le fun.
Non.
Et je l'ai fait essayer à un ami parce que lui, il trippe Alfa Romeo, puis il voulait essayer une Alfa Romeo. Et la semaine précédente, j'avais eu la Giulia, j'avais pas eu l'occasion de lui faire essayer. Quand il a embarqué dans cette voiture-là, son premier réflexe a été de dire, wow, ça marche pas. La transmission, il serait pas capable de s'habituer. Pour le reste, cependant, écoute, on parle d'un véhicule, et là, on parle vraiment de belle qualité, là. On parle d'un véhicule qui est quelque chose.
Okay.
En termes de comportement routier, il n'y a pas beaucoup de VUS qui offrent une conduite aussi aiguisée, aussi affûtée que le Stelvio. On a vraiment l'impression qu'à la limite, on conduit une voiture sport.
Ok, fait qu'on se reprend le côté sensation de conduite là.
Écoute, véritablement, moi, la version que j'avais, c'est la version dotée du 4 cylindre 2 litres suralimenté,
okay.
280 chevaux.
Mm-hmm.
C'est le plus puissant dans sa catégorie. Ça déménage solidement. Et c'est vraiment... écoute, honnêtement, c'est spectaculaire comme tenue de route. Bien sûr, comme toutes les Alfa Romeo, là, on peut jouer avec différents modes de conduite, là, ce qu'ils appellent le DNA, dynamique normale et all-terrain. Le all-terrain étant évidemment plus écologique et destiné à des conditions plus difficiles, le normal étant le standard et le D pour dynamique, ben là, évidemment, ça permet d'avoir un peu plus de oomph en accélération, un peu plus de oomph aussi au niveau des suspension. Bref, c'est vraiment là que l'on a le maximum de sensations.
Okay.
Ce que j'ai pas aimé, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Tu sais, on s'attend d'un véhicule italien qui ait un minimum de sonorité, que le moteur soit un peu performant. Honnêtement, il ne l'est pas tant que ça. Au niveau de la sonorité, on s'entend. Là.
Non,
Je te parle pas des accélérations, là, je te parle vraiment strictement de la sonorité.
ouais.
Ça, c'est probablement son plus grand défaut, parce que j'aurais aimé, moi, qu'on l'entende pétarader, là, c'est un peu comme une Ferrari, là.
Ouais. Parce qu'on sait, un 4 cylindres turbo, on est capable d'avoir un son agréable de ça. Porsche l'a prouvé avec le Macan.
Effectivement.
On est capable. Ouais, on est capable.
Exactement. Après ça, ben, écoute, l'espace intérieur, écoute, on n'est pas dans les grands formats, là. On est dans un véhicule qui est correct. 540 litres d'espace de chargement, c'est amplement suffisant. Ça fait une bonne comparaison avec les rivaux. Honnêtement, c'est pas vraiment un, de ce point de vue-là, c'est pas ce qui est de plus spectaculaire, mais c'est pas ce qu'il y a de plus moche non plus. Une boîte automatique 8 rapports, je t'en ai parlé. La consommation, elle est un peu élevée. Écoute, avec le rouage intégral de la version que j'avais, j'ai fait un peu plus que 11 litres au 100.
OK. C'est quelle grosseur comparatif, là,
Écoute,
ça va contre quoi, mettons?
Ah, écoute, ça va contre quoi? C'est à 4,6 mètres de long. C'est gros comme à quoi on pourrait comparer ça, là. Honnêtement, c'est un peu difficile en termes de taille comme ça, de vite de même.
OK. Mais c'est quoi? C'est un gros VUS? C'est un VUS de...
C'est un VUS? Non, c'est un petit VUS.
OK. Fait que genre Ford Escape ou dans cette grosseur-là?
Un petit peu plus gros que ça,
okay,
quand même.
OK, pas un Murano ou quelque chose comme ça, peut-être plus, dans le genre?
Ouais, ben, tu sais, tu vois, mais on va vraiment contre le Q5. On veut vraiment aller contre la F-Pace.
C'est bon.
On veut vraiment aller dans la version des voitures de luxe.
OK.
On n'est pas dans les...
Non, mais je compare en grosseur, tu sais, les véhicules que tout le monde peut voir, là, c'est juste...
Ben, mettons le F-Pace, le Q5. Le Q5 est probablement celui qui est le plus proche en termes de taille.
OK, c'est bon.
Je te dirais.
Okay.
Donc, ça donne une idée. Et honnêtement, il est aussi proche en termes de prix. Là. On parle de 52 à 57 000 $ pour un Alfa Romeo Stelvio de base. C'est sûr que si tu veux faire le fou, tu peux t'acheter le Quadrifoglio qui arrive avec 505 chevaux. Mais là, évidemment, un peu à l'égard un peu de ce que la Giulia nous donne en termes de Quadrifoglio, c'est un peu trop excessif à mon avis. C'est vraiment, c'est comme trop rough. Donc, je préfère et de beaucoup la version que moi j'avais. Honnêtement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce véhicule-là. La conduite, les sensations de conduite. Quand on nous dit qu'un VUS n'est pas capable de se comparer à une voiture, ben, je peux te dire que c'est pas vrai. C'est vrai. On est vraiment, vraiment, vraiment dans d'autres choses. Ça, c'est incroyable. Vraiment incroyable. Alors, honnêtement, c'est une très, très bonne note pour le Stelvio. Un véhicule de luxe. D'ailleurs, toi aussi, mon cher, cette semaine, t'as fait plutôt dans le luxe.
Oui, j'étais au volant de la Jaguar XE, véhicule que ma belle-mère avait vraiment hâte que j'aie cette voiture-là. Elle m'a fait promettre d'aller y faire un tour quand j'allais la voir parce qu'elle aime beaucoup les voitures britanniques, donc... je l'ai fait, tu sais, pour garder les bonnes relations entre les familles.
Ouais, c'est ça.
J'étais allé la promener en Jaguar XE. Écoute, la Jaguar XE, c'est un très beau véhicule. C'est un véhicule qui a une allure, tu sais, c'est vraiment une voiture qui a l'air d'une Jaguar, a l'air d'une voiture dispendieuse, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. La seule chose, peut-être, c'est que la motorisation que j'avais dans celle que j'ai eue pour une semaine, qui était le 4 cylindres 2 litres, et peut-être pas son meilleur moteur. C'est peut-être pas ce qui a fait ressortir le plus. Je l'ai conduit souvent
ça
à la Jaguar.
Ça va bien quand même. Là.
Oui, ça va bien. Mais comme un peu comme la Stelvio que tu disais, on n'entend rien. Puis on s'attend, quand on va conduire une Jaguar, d'avoir... Tu sais, quand on parle de Jaguar, on parle de la F-Type. le son de la F-Type est quelque chose d'assez merveilleux comme son. J'aurais aimé juste que, pas qu'on ait le même son, c'est impossible. Tu parles d'un V8 avec, tu sais, suralimenté. Tu peux pas avoir ce son-là dans un 4 cylindres, mais au moins avoir quelque chose qui va faire du bruit, qui va, quand tu vas la pousser, va te faire sentir que t'es dans quelque chose de spécial. Et la Jaguar, cette Jaguar-là a pas ça. Mais pourtant, je me rappelle avoir conduit dans des événements Jaguar le modèle avec le V6, et ce moteur-là a un son, a une réactivité un peu plus poussée que le 4 cylindres. C'est normal, c'est un V6, c'est pas un 4 cylindres. Mais je m'attendais un petit peu plus de... qu'elle ait un peu plus de pep, que quand j'accélère, elle réponde un peu mieux, que ça ait un son un peu plus intéressant, mais c'est pas le cas. Mais c'est vraiment pas mal le seul côté négatif de cette voiture-là. Côté confort, c'est incroyable. Côté design intérieur, même si je suis pas un fan du système de divertissement et de l'ergonomie de l'intérieur de cette voiture-là, côté design, c'est magnifique, là. On a... dans les portes, on part du tableau de bord, on s'en va dans les portes, puis c'est courbé. Donc, ça fait un cercle, mais ça fait un cercle incliné. Fait que c'est vraiment épuré, là. C'est vraiment hyper joli de la manière qu'ils ont fait le design de cette voiture-là, là. C'est vraiment joli, joli. On se sent comme entouré par le tableau de bord, les portes et tout ça. C'est vraiment joli. L'éclairage intérieur est bien. Le système de divertissement est correct. Ça m'a pris plusieurs coups avant d'être capable de rattacher mon téléphone par le Bluetooth, de le connecter par le Bluetooth pour écouter de la musique ou des choses comme ça. Ça voulait pas. L'écran me disait « Ah, oh, cherche tel nom sur ton téléphone », puis je voyais autre chose complètement. Je voyais pas ça, mais je voyais bien que c'était le véhicule qui essayait de se présenter à mon téléphone. Ça fonctionnait pas. Il fallait que je réteigne l'auto, que je redémarre l'auto. Avec le système
probablement, probablement quand tu l'as rallumé, il l'a cherché pareil.
C'est ça. Fait que là, ça a fonctionné, mais ça a pris un certain temps. Mais bon, pour le reste, je veux dire, c'est un merveilleux véhicule. La transmission répond quand même assez bien. Le moteur est suffisamment puissant, mais c'est pas une bombe, là. C'est pas autant que le V6 peut être déjanté dans ce genre de berline-là. Le 4 cylindres est un peu plus tranquille. Moi, va être aussi un peu mieux côté consommation. Vous allez réussir à être probablement aux alentours de 10 litres au 100, peut-être un peu en bas si vous faites pas mal d'autoroute. Mais tu sais, c'est ça. C'est le confort, c'est les sièges chauffants et tout ça. C'est vraiment la petite touche anglaise, quand on veut aller connecter notre téléphone dans le système multimédia, c'est une cabine téléphonique anglaise qu'on voit, la petite cabine rouge. Il y a des petits clins d'œil, je veux dire. C'est un beau véhicule. C'est un véhicule
beau,
qui est intéressant.
C'est un très beau véhicule. C'est ça. Ça va super bien.
Là. Oui. Mais le 4 cylindres n'est peut-être pas son meilleur moteur. Il y a un 4 cylindres diesel, il y a aussi un V6, il y a plusieurs déclinaisons de cette voiture-là. Là. Ça commence à 43 900, le modèle de base avec le 4 cylindres à essence. 4 cylindres diesel, on parle de 45 900$. Après ça, on a des modèles avec traction intégrale. Après ça, on a le modèle V6. Moi, j'avais la version 25T, avec traction intégrale. Moteur 2 litres, 247 chevaux. Puis j'avais la version Air Sport. Là. Donc, le design un peu plus sport et ces choses-là. Donc, on parle d'un véhicule qui est un petit peu plus dispendieux. Là. J'avais regardé, là, c'était quoi le prix de la XE Air Sport? On parle de 52 500$ à peu près. Là.
Okay.
Mais joli, les jantes sont jolies, la voiture est vraiment belle. Puis on a quand on rouvre la porte, on a l'espèce dans le pas de la porte, c'est marqué Air Sport. C'est une belle voiture. Ça se conduit très bien, puis c'est hyper confortable. On se promène sur l'autoroute là-dedans, puis on a l'impression qu'on est un peu sur une espèce de coussin. Là, c'est vraiment très bien. Puis même si c'est pas le moteur le plus puissant, quand on accélère, ça l'accélère. Mais j'ai été gâté. Les premières avec ça que j'ai conduit, c'était la version avec le gros V6 sur une piste. C'est une piste improvisée, ah oui. Là, mais tu peux la pousser, puis ça répond, puis ça grogne, puis tout ça. Puis tu te dis, hey, ça, c'est une XE. Quand tu tombes avec un modèle un peu moins puissant, qui a plus ou moins de sonorité, tu le sais que tu peux avoir mieux. Fait que c'est peut-être, tu te dis, ah, j'aurais aimé un peu mieux que ça, mais côté voiture, c'est une merveilleuse voiture, puis c'est joli, ça fait tourner les têtes, puis je veux dire, le design de cette voiture-là est vraiment magnifique, là.
Effectivement, non, ça va très bien. Écoute, Jaguar s'est tellement amélioré au fil des dernières années.
Non, c'est clair, là.
C'est une belle voiture, c'est... Moi,
Ouais.
j'aime beaucoup, beaucoup.
Ouais, la
Ces
XE,
voitures.
le F-Pace aussi,
L'X-E.
le côté VUS, le F-Pace est magnifique aussi,
L'X-E,
puis
c'est incroyable, là. Il est
ça.
vraiment magnifique.
Non, et puis c'est nerveux, ça se conduit comme une voiture, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, non, j'ai beaucoup aimé la Jaguar XE. Comme je disais, la seule chose, c'est sûr et certain, le 4 cylindres, c'est pas son meilleur moteur. C'est pas le moteur qui a fait sortir du lot. C'est le V6 qui va faire ça. Mais ça reste un très bon choix comme moteur. Ça va être un moteur qui va consommer moins, qui va, t'sais, vous allez avoir une voiture qui a de la gueule, là. J'avais un toit ouvrant là-dedans, là, presque jusqu'en arrière. C'est hyper beau l'intérieur. De la manière que le design est fait, c'est merveilleux. Comme je disais, l'ergonomie, peut-être un peu à travailler pour certaines choses. Il y a des boutons qui sont durs à trouver la première fois que tu t'assois dans l'auto, là. C'est comme, OK, comment je fais ça? Attends
Effectivement.
un peu. Comment
Non,
j'allume les
effectivement, c'est pas
phares
facile.
là-dessus? Comment je mets les phares à auto là-dessus?
Ah non, des fois c'est compliqué un peu, mais on
Ouais.
finit par s'en
Un
sortir.
coup qu'on le sait. Tu sais, quand t'achètes la voiture, je veux dire, elle est à toi, là. Tu le cherches une fois, puis après ça, tu le sais, tu sais. Mais quand tu tombes d'une voiture, t'as comme, ah, ben, je pars avec, puis il faut que je me rende au centre-ville de Montréal avec. Faudrait peut-être que j'allume les phares avant de tomber sur l'autoroute avec ça. Tu prends le temps de regarder, puis de le trouver, tu sais. Mais c'est ça. Mais non, belle
Effectivement.
voiture. J'ai bien aimé ma semaine en Jaguar XE. Donc, Marc, c'est ça, on va faire une autre petite pause, puis on va revenir avec des nouvelles. Alors, nous sommes de retour pour le dernier bloc de l'émission cette semaine. Marc, quelques nouvelles. Je sais que c'est assez tranquille, mais tu as quand même déniché quelques petites choses pour nous.
Bon, ben en fait, je veux te donner ma liste de cadeaux de Noël.
OK, c'est mieux d'être ici, parce que j'ai pas d'argent. D'accord.
Ben en fait, juste un cadeau. Tu sais, je vais me contenter d'un seul cadeau.
Un petit cadeau?
Ouais, ben c'est pas très gros, en fait, là.
OK.
Mettons que c'est un petit VUS.
Genre Hot Wheels ou...
Non, genre Lamborghini Urus. Lamborghini a finalement sorti son VUS. C'est pas la première fois que Lamborghini sort un VUS. Tu te rappelleras du défunt LM002 qui était une horreur sans nom.
Ouais, mais originalement, Lamborghini, c'est une compagnie de tracteurs.
Oui, c'est ça. Mais le LM002 qui a été fait au début des années 80, milieu des années 80 à peu près, jusqu'au début des années 90, c'était une horreur épouvantable. Ça avait l'air d'un véhicule militaire, un peu comme un Hummer, mais en moins bien réussi.
Un Hummer, mais en plus laid, ce qui est
C'est
difficile.
ça. Exactement. Mais là, vraiment, on arrive avec le Urus. Le Urus, qui est un utilitaire sport performant, dynamique. Écoute, on a vraiment voulu jouer la carte totalement sportive. On veut même l'amener sur le Nürburgring pour aller battre des records. V8 biturbo, moteur 4 litres, 650 chevaux, 627 livres-pieds de couple. C'est un petit véhicule tranquille,
Non, oui,
là.
quelque chose de pépère, là.
C'est ça, 0 à 100, 3,6, 0 à 200, 12,8, vitesse de pointe 305 km. Je te rappelle qu'on parle d'un VUS, là.
Ouais.
On parle d'un véhicule qui a un rouage intégral permanent, qui a quand même de l'espace de chargement. C'est vraiment. Et quand on parle de rouage intégral permanent, il y a 4 roues motrices en tout temps. C'est pas un intégral qui peut transporter tout son couple vers l'avant, vers l'arrière, là. Il y a 4 roues motrices en même temps.
Mais les Lamborghini sont pas comme ça aussi
Oui,
présentement, là, à part les il y a des
mais.
versions deux roues motrices là, de propulsion, mais la majorité des Lamborghini maintenant sont quatre roues motrices permanents,
Oui, effectivement,
non?
sauf que je voulais faire la nuance entre un
Oui,
intégral traditionnel.
ce qu'on appelle du all-wheel drive, qui est vraiment du traction
C'est ça.
avant avec traction arrière occasionnelle.
C'est ça, mais dans ce cas-là,
OK.
c'est pas ça, là. Dans ce cas-là, on est vraiment 4 roues motrices en tout temps.
C'est bon.
Un intérieur, évidemment, ultra raffiné, beaucoup, beaucoup de boutons, de tout ce que tu veux, des performances sportives incroyables. D'où vient le nom Urus, d'ailleurs, tu sais-tu?
Pas du tout. Normalement, c'est des noms de taureaux d'une certaine manière, là, mais je sais pas si c'est encore vrai.
C'est effectivement un nom de taureau, mais c'est une race éteinte de taureau.
OK.
Donc,
Donc
on est
ça veut dire
rendu
qu'ils vont
là.
faire le VUS pendant 2 ans, parce qu'on le verra plus. Parce qu'il
Probablement,
faut que
c'est
ça
ça va devenir.
s'éteigne. OK.
Mais sérieusement, ça devient donc un véhicule qui est absolument spectaculaire. Honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très beau.
Ah, j'ai aucun doute là-dessus.
C'est franchement, franchement très, très, très joli.
Ça ressemble au concept qui a sorti il y a quelques années. Je pense même le Lamborghini Urus est dans le dernier Forza Motorsport 7. Tu peux conduire le Urus dedans.
Effectivement, il est
Ouais.
dedans.
Ouais. Très joli véhicule.
Effectivement. Oui, c'est un
Agressif
super beau.
au possible pour un VUS,
Effectivement.
là. Ouais.
Bon, là, tu me dis finalement que tu ne m'achèteras pas du russe, c'est ça? Parce que ça vaut à peu près 200 000, 250 000 US.
C'est quand même, pour une Lamborghini, c'est quand même pas si pire que ça.
Oui, mais attends, là. Ça, c'est le prix de base.
De base, pas de,
Là,
pas de, pas
on
de,
n'a pas
pas,
encore
pas de
officiellement
siège
dévoilé.
dedans. OK.
Fait qu'on va attendre de voir si c'est vrai ou pas, là.
Mais ça reste
Donc,
250 000 pour un VUS Lamborghini, c'est pas, je dis pas abordable, mais pour une Lamborghini, c'est pas ultra cher. Tu sais?
non, tu as raison. Mais je vais quand même te donner un deuxième choix.
OK. Le livre de Bertrand Godin, une deuxième copie. Parce que tu veux faire
Non,
signer ton
la
premier.
Ford GT.
Ouais, c'est quasiment aussi cher.
C'est plus cher, c'est 440 000 piastres.
Ouais.
Je t'en parle simplement parce qu'elle est finalement arrivée au Canada. On l'attendait depuis quelque temps. Et tout le monde disait, Ford a fait un événement à Calabougie avec un homme d'affaires pour dire, regardez, c'est la première Ford GT vendue au Canada. Bravo, bravo, bravo. C'était pas vrai.
OK.
La première GT a été vendue à Saint-Hyacinthe, mon cher, par le concessionnaire de Saint-Hyacinthe, qui l'avait vendue 3 semaines avant celle à Ottawa.
À un certain
Donc,
Marc Bouchard ou...
non, non, si c'était le cas, je ne t'en parlerai pas, je serais actuellement au volant. Mais c'est donc une voiture qui, effectivement, a été livrée il y a quelque temps déjà, et le monsieur l'entrepose pour l'hiver,
OK.
et il a la gentillesse de l'entreposer pour le moment chez le concessionnaire.
OK, donc le concessionnaire peut la montrer à ses clients.
Exactement. Alors, si vous allez sur le site de Barry Ford Lincoln, vous allez voir, c'est une version héritage, là, tu sais, avec les lignes noires, les lignes blanches dessus, le numéro sur le côté et tout, là.
OK.
Donc, les versions héritage sont en nombre limité.
Ouais.
Donc, voilà, c'est la première Ford GT qui est arrivée et que je m'attendais un petit peu que tu étais pour m'en acheter une.
Mais
Mais je suis quand même.
juste de même, là, pas pour être pas pour te taper le clou, là, mais pourquoi d'abord c'est un événement ailleurs pour une voiture qui est pas vraiment la première? Pourquoi on n'a pas fait ça au Québec? Parce que c'est pas le Québec, c'est pas fashion ou c'est quoi?
Parce que le propriétaire de la supposée première voiture est aussi propriétaire de la piste Calabougie dans la région d'Ottawa.
Ah,
C'est là qu'ils ont fait
OK.
le lancement.
Donc, le monsieur Saint-Hyacinthe a acheté la 0,5, puis l'autre, il a vraiment la 1 d'abord.
C'est ça.
On joue avec les chiffres pour dire c'est la première. OK. Donc, je trouve ça un peu plate, là, mais
Probablement.
bon. Correct.
Ben,
Ouais,
moi aussi, mais.
OK. Monsieur.
Dans la série, j'ai parlé beaucoup la semaine passée du salon de l'auto de Los Angeles. Est-ce que je t'ai parlé de la Mitsubishi modèle A?
Non.
Non, hein? Écoute, au salon de Los Angeles, Mitsubishi a présenté l'Eclipse Cross, qu'on attendait, qui est vraiment un beau véhicule en passant, là. C'est vraiment de loin le plus beau des véhicules Mitsubishi actuellement disponibles.
Ben,
En
je dirais que
tout cas,
la
l'Aeto.
barre est pas super haute, là. Mais oui,
Non, mais
j'ai
il est
pour avoir vu
vraiment
des
plus
photos.
beau.
Ouais, pour avoir vu des photos, il est beau, là.
Sauf que là, tu vois, Mitsubishi célèbre cette année son centenaire. Ils ont décidé de faire différentes activités particulières et ils ont présenté au Salon de Los Angeles un modèle A. Le modèle A, je te rappelle, c'est le premier modèle que Mitsubishi a fait il y a 100 ans.
Ouais.
Sauf que ils ont fait affaire avec l'équipe californienne qui s'appelle West Coast Customs,
Ouais,
que tu connais
qu'on
probablement.
voyait à Musique Plus à un moment donné. C'était
Exactement.
Pimp My Ride, quelque chose comme ça qu'il faisait? Ou, non,
Ouais,
c'était un autre.
exact.
C'était
Ben, c'est
Pimp
le même genre, là.
My
Je sais
Ride?
pas si c'est My Ride, en
Ouais,
tout
OK.
cas, c'est ça.
Je pense que c'était eux autres. Ou, en tout cas, c'est une
Ben,
compagnie
c'est ça.
connue, West Coast Customs. Ouais.
C'est ça. Alors, bon, eux ont décidé de prendre un modèle A et de le mettre à la sauce du jour.
OK.
Donc, ils ont utilisé la technologie qu'il y a en dessous du Outlander PHEV, là, technologie hybride, branchable et tout, et ils ont créé un modèle A. Si tu ne l'as pas vu, je t'invite à aller voir les photos. J'ai rarement vu quelque chose d'aussi laid. Non.
Retour à nos vieilles habitudes.
Écoute, c'est épouvantable. C'est disproportionné, c'est mal fait, c'est tout croche. On a l'impression qu'on a raboudiné deux, trois morceaux. On a installé un devant beaucoup trop long. Bref, c'est vraiment pas joli. Évidemment, tu comprendras que de toute façon, c'est pas pour être vendu. C'est plus un élément de relation publique.
Ouais.
Mais, et c'est très drôle parce qu'on en parle, la preuve que ça a bien fait, plutôt bien fonctionné.
Bon, ouais.
Mais c'est vraiment laid. Je te confirme que c'est pas très joli. Alors, si ça vous tente d'aller voir de quoi ça avait l'air, allez-y. C'est un spectacle qui vaut la peine d'être vu, bien que je suis persuadé que vous n'en achèterez pas non plus.
Bon, après, ça sera pas disponible, mais ouais, c'est... Non, j'avoue que c'est assez ordinaire. Comme design, là. Mais bon, c'est.
Minimum.
Bon, ouais,
Minimum.
c'est. OK, c'est ça. C'est
Euh,
bon.
on a, on a parlé de Jaguar tout à l'heure. Le frère Jaguar Jaguar, c'est Land Rover, on le sait, ça appartient à la même compagnie, compagnie qui fait des VUS de luxe depuis plusieurs années. VUS que j'adore, soit dit en passant, là, que j'ai beaucoup aimé. Le nouveau Velar, il est magnifique. J'ai pas eu l'occasion de l'essayer encore, mais il est superbe. Bon. Sauf que là, il semble qu'il pourrait y avoir quelque chose d'assez particulier, puisque Land Rover voudrait lancer une berline et un coupé sport.
Bon, Jaguar veut lancer un VUS, c'est là, Land Rover veut lancer une berline et un coupé sport.
Effectivement.
C'est comme les cousins qui se disent, moi aussi je suis capable. Mais c'était
Ben
beau.
oui, puis non, parce qu'en fait, Land Rover est pas fou. Il
Non.
profiterait de l'expertise de Jaguar et il demanderait à Jaguar d'aller faire eux-mêmes cette voiture-là. Donc, de voir là, quel genre de véhicule il pourrait faire et qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ça. Donc, on parle vraiment d'une berline et d'un coupé. C'est pas fait, tu me diras, là. C'est quelque chose qui s'en vient cependant. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour le moment, c'est dans l'air. On parle donc effectivement de ce véhicule-là, ce qui serait très, très particulier,
Ouais.
notre
OK. Non, c'est un peu spécial, mais oui, pourquoi pas? Je veux dire, toutes les compagnies de voitures s'en vont avec des VUS, Lamborghini. Ferrari disent, ah, non, non, pas nous autres, mais regarde, on sait bien qu'avec Sergio Marchionne, s'il peut faire, si Marchionne, s'il peut faire de l'argent avec Ferrari puis faire un VUS, il va en faire un. Tu sais,
Ben c'est clair.
peu importe si
À moins
Ferrari
qu'ils
a
le
jamais voulu en
vendent.
faire. Ouais, à moins qu'ils vendent Ferrari, mais tu sais, regarde, toutes les compagnies ont besoin d'un VUS. Tout le monde, Bentley en a fait un, tout le monde en fait un, regarde. C'est clair que à un moment donné, ben, les compagnies qui font seulement des VUS vont vouloir aussi une voiture.
Eh oui.
Surtout quand t'as une compagnie qui t'appartient aussi, qui en fait des voitures. T'as déjà l'expertise, puis t'as déjà, au pire, de l'architecture que tu peux juste prendre et modifier avec une carrosserie, puis t'as déjà un moteur, puis t'as tout. Regarde. Pourquoi pas? T'sais.
Effectivement. Non, moi, je
Non,
pense que c'est là qu'on est rendu de toute façon.
non, c'est clair, c'est clair.
Alors, c'est ce qui s'en vient.
C'est bon.
En terminant, parce que là, je fais pas mal le tour des nouvelles, là, les autres, il n'y a pas grand-chose d'autre.
Ouais, ça va sûrement être encore plus tranquille les prochaines semaines. Je pense pas qu'il va y avoir des grosses
Effectivement.
annonces pendant le temps des fêtes. On va voir.
Non, mais on fera un petit scandale ici et là, là.
Non, c'est beau.
On s'arrangera là. Je sais pas, j'irai monter l'oratoire, ou en tout
Wow,
cas.
Hey, ils ont vu, en passant, ils ont vu une Tesla 3 à Montréal, là.
Oui, effectivement, c'est une dame de Californie qui travaille pour Tesla. Les rumeurs veulent qu'elle l'ait amenée ici pour faire des tests par temps froid.
OK. Et probablement
Mais
aussi par temps nid de poule. Elle
aussi.
voulait voir si la voiture était capable de pas se déconstruire en faisant un tour sur Sainte-Catherine.
C'est ça. Là, la question, c'est est-ce que c'est emmené en roulant ou si elle l'a mis sur un camion? En tout cas,
Bonne
moi, je
question.
pose. C'est ça. Moi, je ne réponds pas à ça.
C'est bon.
Ceci étant dit, écoute, comme tu sais, Luc, toi et moi, on est des gens ultra débordés. On travaille
Oui.
fort.
Oui, ben on essaye.
Puis, comme on le voit, on raccourcit nos émissions des fois parce qu'on manque de temps et tout. Et j'ai envie de demander aux auditeurs s'ils si étaient d'accord pour qu'on intègre un troisième larron. Mais là, je m'explique. Je veux pas que ce soit un journaliste automobile. Je veux que ce soit quelqu'un qui a des connaissances automobiles, qui ferait occasionnellement des petits trucs, peut-être des petits essais de temps en temps avec nous, mais très rarement, et qui agirait surtout comme animateur pour nous aider à comme mieux faire les liens, parce qu'on a tendance à se perdre un peu, toi et moi, quand on part à jaser.
Bien sûr.
Et le gars, c'est un Français de France. Alors, quand il parle de Nissan, il dit Nissan. On va dire ça tout de suite, là.
Oui.
Un
C'est
vrai de vrai,
un vrai.
mais l'idée, en fait, ce serait donc qu'il puisse nous aider, qu'il puisse agir comme animateur. Sauf que je sais que ça change considérablement le rythme de l'émission. L'idée même d'avoir un animateur, ça t'éviterait à toi de faire beaucoup de choses parce que c'est toi qui actuellement fais toute la technique, en plus de gérer l'animation. Donc, ça t'éviterait à toi, on va essayer de te donner un break. Alors, mais je veux savoir si les gens ont de l'intérêt pour ça. S'ils disent non, on est mieux que quand vous êtes deux caves à dire des niaiseries, ce qu'on fait à l'occasion aussi. Donc,
À l'occasion, t'es gentil.
ouais, c'est
À
ça,
l'occasion, on
j'essaie.
dit pas de niaiserie.
C'est ça.
Ouais.
Mais donc, j'aimerais ça savoir donc s'il y a effectivement de l'intérêt pour ce genre de truc-là. Et qu'est-ce que vous en pensez? D'avoir quelqu'un qui, comme je vous dis, n'est pas un journaliste automobile, est un animateur de radio, c'est un gars de Toronto en plus, qui est un francophone, un Français de France, qui a envie de s'impliquer là-dedans. Alors, j'ai envie d'avoir votre avis. Donc, vous pouvez me l'envoyer soit en passant par mon blog, marcbouchard.ca, vous avez là tous mes liens pour me rejoindre, soit sur Facebook, bien entendu, soit sur Twitter où c'est Marc Soulignier Bouchard, c'est la façon la plus facile, ou sinon à info@saroulradio.com, qui est notre adresse à laquelle Luc et moi, on a accès tous les deux. Bien sûr, il y a aussi toutes les plateformes de Saroule Radio que Luc va se faire un plaisir de vous donner.
Ben, il y a Twitter, Saroule Radio, il y a Facebook, Saroule Radio. Comme Marc dit, il y a aussi l'adresse courriel info@saroulradio.com. Je sais que les gens sont pas portés à nous écrire. Les gens, tu sais, c'est dur de savoir même combien de personnes écoutent parce que des fois on va poser des questions puis on n'a pas vraiment d'interaction avec vous autres. Mais tu sais, prenez deux secondes si vous avez, si ça vous intéresse de nous dire, ah, mais tu sais, j'aime la dynamique que vous avez présentement, puis je suis pas certain que j'aimerais avoir une troisième personne qui embarque pour animer, tu sais, ou des choses comme ça, ou ah, mais ça serait bien d'avoir une troisième personne comme ça, tu sais, vous pourriez vous concentrer, puis peut-être que vous seriez vos temps seraient plus respectés dans l'émission, puis vous dérapez peut-être un peu moins, quelqu'un pour vous ramener à l'ordre, tu sais, je sais pas. Jamais. Donc c'est ça, tu sais. Fait que si vous voulez, si vous aimez l'émission, prenez 30 secondes parce que l'émission on l'a fait pour vous, tu sais, moi puis Marc, on pourrait juste s'appeler puis parler d'auto puis pas enregistrer, mais on fait ça parce que on adore l'automobile depuis que je suis tout petit, puis j'aime ça en parler, puis j'aime ça faire une émission puis tu sais vous la partager avec vous autres. Donc c'est un peu, tu sais, c'est votre émission, fait t'sais, dites-nous ce que vous préférez. Puis si vous avez aucun intérêt pour avoir un animateur autre, ben dites-nous-le, puis on va garder ça comme ça. Puis si ça vous intéresse, ben on va y aller avec un animateur. On va faire un test. Si jamais vous détestez ça par après, on reviendra à formule originale. On est ouvert aux suggestions et aux critiques qui sont productives.
Et oui, puis, mais c'est juste qu'effectivement, on se rend compte qu'on est rendu à 77 épisodes d'enregistrés. On fait ça avec beaucoup de plaisir, on s'amuse, mais on prend du temps pour nous, de notre temps personnel pour le faire. On adore ça. Puis en même temps, ben, on aimerait ça que vous nous parliez un peu plus parce qu'on trouve que vous ne nous parlez pas beaucoup. Vous nous envoyez peu de commentaires, on en reçoit de temps en temps. On essaie d'en tenir compte, de s'améliorer. Je me rappelle entre autres d'un ami à moi qui nous avait dit un jour que la qualité sonore n'était pas tout à fait à la hauteur. Donc, on essaie d'améliorer tout ça. Même si là, j'ai des problèmes techniques avec mon Skype qu'un jour, je vais
devoir... Ça cogne un peu.
Tout ça pour dire qu'on attend vos courriels. On espère en recevoir des tonnes. Et bien entendu, on veut avoir votre avis, que ce soit pour ou contre. On s'en fout. Et si vous avez d'autres critiques, si vous avez des questions aussi sur des véhicules spécifiques, n'hésitez pas à nous les poser. Ça nous fera grand plaisir.
C'est bon. Fait qu'on va finir là-dessus. Tu as dit ton blog et tout ça. Moi, Scalazormo sur Twitter. Et puis les comptes, on les a déjà nommés. Vous pouvez nous écouter à la radio, sur Internet, sur sportradio.ca, sur Radio Média Plus et sur Radio H2O si ça vous tente. Allez voir les horaires. Là, on est là un peu partout pendant la semaine. Donc, merci à tous d'avoir écouté encore une fois cette émission cette semaine, puis on se dit à la semaine prochaine. Bye tout le monde.
Bye bye.